3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro.
Un fouet, un chapeau de feutre, une sacoche, un blouson de cuir, pas besoin d'en dire plus pour reconnaître Henry Jones Jr., mieux connu sous le nom d'Indiana Jones, un archéologue aventurier qui n'a peur de rien, sauf des serpents. Quand le premier film de cette quadrilogie sortira en salle le 12 juin 1981, la production est un peu nerveuse car le film est notamment en concurrence avec Superman 2, dont le premier avait été un succès monstre au box-office. De plus, les sondages de prévisionnement de Raiders of the Lost Ark, le titre du premier volet, seront plutôt mauvais. Pourtant, Indiana Jones triomphe de tous les obstacles et devient alors le film le plus rentable de l'année, avec des recettes globales dépassant les 330 millions de dollars, même qu'aux États-Unis, le long métrage restera à l'affiche pendant plus d'une année complète. Après 40 ans, Indiana Jones, dont le prénom était celui du chien de George Lucas, le producteur, est devenu un personnage emblématique de la culture populaire américaine. En 2003, il sera classé à la deuxième place de la liste des plus grands héros et méchants du cinéma de l'American Film Institute, seulement devancé par le personnage d'Atticus Finch, interprété par Gregory Peck dans le film To Kill a Mockingbird, qui sortira en 1962. Suite au succès du long-métrage de 1981, quatre autres films suivront, ainsi qu'une série de télévision racontant les aventures de l'archéologue à un jeune âge. Voici donc le sujet des deux prochaines émissions de Programme Double, alors que je ferai un survol des quatre premiers films de la franchise afin de souligner les 40 ans de ce héros fantastique. Je débuterai dans cette émission avec Raiders of the Lost Ark, sorti en salle en 1981, suivi d'Indiana Jones and the Temple of Doom, qui, lui, sorti en salle en 1984. Dans la prochaine émission, j'analyserai alors Indiana Jones and the Last Crusade et finalement Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Donc, sortez vos cartes du monde, mettez votre fedora, car je vous propose ici un voyage spectaculaire dans le monde de l'aventure en suivant les péripéties de l'un des plus grands héros du cinéma américain, j'ai nommé Indiana Jones.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Music to the ears of the hungry. The sizzle of a mouth-watering hamburger. Fresh, lean beef, done to a golden brown, couched in a soft bun. And garnished to taste. Man, that's hunger heaven. And you'll feel like you're heaven sent when you get one at our refreshment stand.
The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. Thank you.
And now, it's showtime.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance, l'arche perdue.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Une armée qui se ferait précéder de l'arche serait invincible.
Si l'Arche d'Alliance se trouve réellement à Tanis, la main de l'homme ne doit pas s'en approcher sous peine de mort.
L'Arche perdue est protégée par des forces qui dépassent l'imagination. Et elle est convoitée, avant tous les autres trésors de ce monde, par les bons.
Fie-toi à moi.
Et par les mauvais.
Je vais tout vous dire, tout.
Oui, je sais que vous parlerez.
Les aventuriers de l'Arche perdue.
Lâchez-la! Écoutez, patron, si vous voulez toujours l'Arche, elle va partir par camion au Caire. Baisse-toi!
Les aventuriers de l'Arche perdue. Un film de Steven Spielberg et George Lucas.
Raiders of the Lost Ark, ou Les Aventuriers de l'Arche perdue, est un film d'aventure produit par les studios Paramount Pictures et qui sera distribué en salle le 12 juin 1981. Ce film américain, d'une durée de 115 minutes, aura un budget de plus de 20 millions de dollars, mais ramassera plus de 389,9 millions de dollars à travers le monde entier. Du côté de la réalisation, on y retrouve l'excellent metteur en scène américain Steven Spielberg, qui nous avait donné Duel, Jaws, 1941 et Jurassic Park. Sur le siège du producteur, on y retrouvera Frank Marshall, celui qui s'était occupé de la production de Poltergeist, Always, Hook et la version de 1991 de Cape Fear. Et au niveau de la scénarisation, nul autre que Lawrence Kasdan, ce scénariste américain qui nous a donné les scénarios de Bodyguard et surtout Solo, A Star Wars Story. Dans la distribution, on y retrouve Harrison Ford dans le rôle titre, suivi de Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies et Delholm Elliott. Raiders of the Lost Ark suit l'histoire d'un professeur d'université à l'esprit aventureux qui est engagé par les services d'intelligence américains pour se rendre en Égypte où des nazis poursuivent des fouilles en vue de retrouver l'Arche d'Alliance. Aidé par une ancienne flamme, Indiana Jones devra affronter divers dangers pour récupérer cette précieuse relique dont les Allemands se sont emparés. Juste après avoir terminé la réalisation d'American Graffiti en 1973, George Lucas remarquera un vieux poster de film où un aventurier sautait d'un cheval en direction d'un camion en mouvement, ce qui lui rappela, durant son enfance, ses fameux serial films qu'il aimait tant, soit des courts-métrages de moins de 20 minutes présentés avant le film principal le samedi matin et dont l'histoire se poursuivait de semaine en semaine, tel un bon roman savon. De Buck Rogers à Zorro's Fighting Legend, en passant par Spy, Smasher et Tarzan, ces petits films l'avaient émerveillé durant son enfance et allaient lui permettre de créer un nouveau personnage qui allait illuminer notre imagination, celui d'Indiana Smith. Après avoir présenté en 1975 son idée à l'un de ses amis, le réalisateur Philip Kaufman, et après avoir écrit avec ce dernier l'histoire de fond pendant plus de 2 semaines, Lucas demandera à Kaufman de mettre en scène le film, mais ce dernier ne pourra accepter car il travaillait alors sur la production de The Outlaw Josey Wales, qui mettait en vedette l'acteur Clint Eastwood. Cela forcera Lucas à mettre de côté ses idées sur l'aventurier pour se concentrer sur un autre projet basé également sur un serial important des années 30, soit Flash Gordon. Le titre de ce projet, Star Wars. En mai 1977, sort sur les écrans le film révolutionnaire intergalactique de la Guerre des étoiles. Ne sachant pas si sa dernière création sera un succès, Lucas se ronge les sangs sur une plage de Hawaï avec à ses côtés son meilleur ami Steven Spielberg. Ce dernier annonce à Lucas qu'il a très envie de tourner un film de James Bond, mais c'est alors que Lucas introduira à Spielberg le personnage d'Indiana Smith. Spielberg n'aimait pas vraiment le nom de famille de Smith et les deux hommes décidèrent de changer ce dernier par Jones. Lorsqu'ils se mirent d'accord, les deux amis contacteront alors le scénariste Lawrence Kasdan pour que ce dernier développe ce qui avait déjà été écrit par Lucas et Kaufman, ce dernier ayant eu l'idée originale de la recherche de l'Arche d'Alliance. Kasdan avait débuté sa carrière de scénariste depuis un mois seulement lorsque Lucas et Spielberg lirent l'un de ses premiers scénarios qui était intitulé « Continental Divide », qui deviendra un film en 1981 et qui sera produit par Steven Spielberg. Lorsqu'il fut embauché par Spielberg, lui et ce dernier allaient travailler intensément à l'écriture du scénario en janvier 1978 dans une résidence de Lucas à Sherman Oaks à Los Angeles. Après 5 mois d'écriture, le premier jet du scénario fut prêt. Dans cette version, Indiana Jones, alors à Shanghai, se trouvait alors impliqué dans une poursuite à l'intérieur d'une mine, idée qui fut retirée du scénario final et qui sera transposée dans le prochain film de la franchise, soit Indiana Jones and the Temple of Doom en 1984. Le scénario final sera alors livré en décembre 1979. Reste maintenant à trouver le financement. Le projet est alors refusé par tous les studios de Los Angeles. Tout le monde aime l'idée, mais pas le traitement. Après plusieurs négociations, c'est finalement Paramount Pictures qui finit par accepter de produire en partie le film et de le distribuer. Mais, au final, la Paramount a un problème. Elle ne veut rien savoir de Steven Spielberg à la réalisation. Ce dernier, payant ses imposants dépassements de budget et de délais de production sur Jaws, Close Encounter of the Third Kind, mais tout spécialement 1941, qui fut un cuisant échec au box-office. Lucas va alors tout faire pour imposer son ami à la réalisation, promettant à la Paramount de tourner le film en un temps record. Les négociations ardues durèrent presque une année entière. Le résultat final de cette entente avec la Paramount fera en sorte que la compagnie allait entièrement financer le projet avec un budget restreint et en échange, Lucas allait posséder plus de 40 % des droits cinématographiques du premier film et les droits exclusifs de toute suite qui pourraient survenir par la suite et allait également amasser presque 50 % des profits après, bien sûr, que le studio Paramount Pictures ait empoché un certain montant. Cependant, il y avait une clause punitive extrêmement importante si Spielberg ne délivrait pas le film terminé avant une certaine date, ce qui aurait pu, à l'époque, mettre un terme à la carrière des deux hommes. Pour ne pas décevoir son ami avec qui il travaillait pour la première fois, Spielberg promit à Lucas de respecter tous les délais de production et surtout le budget alloué. Dès le début, Steven Spielberg et le scénariste Lawrence Kasdan pensèrent à Harrison Ford pour le rôle d'Indiana Jones. Mais George Lucas s'y opposa, craignant que sa collaboration reste infiniment associée à l'acteur. Tom Selleck fut alors contacté par la production pour incarner Indiana Jones, car son audition avec l'actrice Sean Young captiva l'intérêt de Spielberg. Cependant, le contrat liant Selleck à la série télé Magnum P.I. contraint ce dernier à renoncer au rôle lorsque CBS donnera le feu vert à la dite série télévisée. De plus, la grève des acteurs, qui survenue cette année-là, empêchera également Selleck d'interpréter le personnage de John, rôle qu'il aurait eu le temps de tenir sans cette dite grève car le tournage aurait pu être complété avant le début de celui de Magnum P.I. Nick Nolte fut également contacté, mais il refusa, tout comme Jeff Bridges, Tim Matheson, Peter Coyote et plusieurs autres. Finalement, Steven Spielberg relança alors George Lucas pour donner le rôle à Harrison Ford, impressionné par sa performance dans le rôle de Han Solo dans The Empire Strikes Back. Après que Lucas se laissa convaincre par les deux hommes, ce sera au tour de Ford d'accepter avec un contrat montant dans les 7 chiffres, un pourcentage des profits et l'option de réécrire ses propres dialogues. Après le départ de Selleck, l'idée de mettre en vedette Sean Young dans le rôle principal féminin fut vite oubliée, cédant donc la place aux actrices Amy Irving, qui deviendra plus tard la première femme de Steven Spielberg, et Deborah Winger, qui fut alors pressentie pour jouer le rôle de Marion. Mais ce sera finalement l'actrice Karen Allen, remarquée dans le film National Lampoon's Animal House, qui fut choisie. C'est Laurence Kasdan qui choisira le prénom de Marion au personnage féminin de l'histoire en l'honneur de la grand-mère de son épouse, alors que le nom de Ravenhood venait d'une rue de Los Angeles. Karen Allen obtiendra le rôle de Marion plusieurs semaines avant qu'Harrison Ford ne soit finalement choisi pour interpréter Indiana Jones. Originalement, Spielberg voulait Danny DeVito dans le rôle de Salah, mais celui-ci refusa car il devait honorer son contrat pour la télésérie Taxi. Quant au rôle de Belloc, l'Italien Giancarlo Giannini, l'acteur et chanteur français Jacques Dutronc et l'acteur Jean-Pierre Cassel furent les premiers choix de Spielberg, mais comme aucun des trois hommes ne parlait anglais, le réalisateur jeta finalement son dévolu sur le Britannique Paul Freeman, qui ressemblait beaucoup à l'époque à Cassel. Finalement, il s'agira ici du tout premier rôle à l'écran de l'acteur Alfred Molina que l'on verra plus tard dans le rôle du Dr. Octopus dans le film Spider-Man 2 de Sam Raimi. L'idée première du producteur George Lucas est de faire d'Indiana Jones un personnage pratiquant le kung-fu qui était de type playboy et qui finance son train de vie exceptionnel grâce à ses trouvailles archéologiques. Du côté du réalisateur Steven Spielberg, lui propose que Jones soit plutôt un joueur addict souffrant d'alcoolisme. Finalement, les deux hommes tombèrent en accord pour dire que ni l'un ni l'autre de ces personnages n'aurait de chance de devenir un role model comme il le souhaitait. Pour les auditions, Spielberg utilise une technique vraiment particulière. Les rencontres avec les acteurs se font dans la cuisine de Lucasfilm sans aucun scénario. Pour que les acteurs soient bien détendus, Spielberg leur demandera de l'aider à faire des biscuits. Puis, il fera manger ces mêmes biscuits aux acteurs suivants. Le producteur Frank Marshall, qui avait de l'expérience sur les productions indépendantes à petit budget, fut embauché par Spielberg afin de s'assurer que ce dernier respecte non seulement l'horaire de tournage, mais également le budget restreint du film. Alors que Paramount avait mandaté un tournage de plus de 85 jours, Lucas, Spielberg et Marshall s'imposèrent une production de seulement 73 jours afin de se laisser du lousse au cas où des imprévus surviendraient. Spielberg prendra plus de 6 mois pour préparer son tournage afin d'être sûr de respecter les délais prévus. Les artistes Ed Vero, Dave Negron, Michael Lloyd et le futur réalisateur Joe Johnston travaillèrent sur le storyboard qui comprendra alors plus de 6000 images pour illustrer le long métrage. Avant le début de la production, Harrison Ford subira un entraînement exhaustif de plusieurs semaines avec le coordinateur Glenn Randall qui lui montrera également comment bien utiliser le fouet. Tout est enfin prêt. La production de Raiders of the Lost Ark peut à présent démarrer. Nous sommes en juin 1980 et le tournage débutera alors à La Rochelle en France avant de se rendre par la suite en Angleterre dans les studios d'Elstree. On s'envole ensuite pour la Tunisie où il faudra tourner les scènes d'excavation de la mythique cité de Tanis. Toutes les scènes censées se dérouler en Égypte ont été filmées à Karouan et Tataouine en Tunisie. C'est au même endroit que furent tournées en 1977 certaines scènes de la planète Tatooine dans Star Wars. Avec 600 figurants bien placés, Steven Spielberg réussit à donner l'impression qu'ils sont 2000, lui permettant ainsi de respecter son budget. Quant à la grande excavation, elle aurait dû couvrir une superficie de plus de 100 acres, mais il va s'en sortir avec 35. Grâce à l'argent économisé, Spielberg peut donc commander plus de 6000 serpents pour la fameuse séquence du Well of Souls. D'ailleurs, pour cette séquence, la production fit le tour de tous les pet shops de Londres et du sud de l'Angleterre afin de trouver tous les serpents possibles. Spielberg considère que le tournage en Tunisie fut l'une de ses pires expériences de tournage en carrière. En effet, en plus d'une température extrêmement chaude, plus de 150 membres de l'équipe de production, incluant Harrison Ford, auront la dysenterie amibienne, une maladie infectieuse du côlon provoquant une diarrhée accompagnée de crampes abdominales. Spielberg fut épargné car ce dernier avait amené avec lui sa propre nourriture, plusieurs cannes de spaghettis et plusieurs bouteilles d'eau potable. Une des séquences qui fut touchée par cette situation est celle où Indiana est confrontée à un arabe armé d'une gigantesque épée. Le cascadeur Terry Richard pratiqua pendant des jours pour une séquence de combat avec le célèbre aventurier, mais lorsqu'arriva la journée du tournage, Harrison Ford, qui était encore atteint de la maladie, demanda alors à Spielberg de raccourcir la scène de combat, se sentant incapable de réaliser celle-ci. C'est ce qui amènera Indiana Jones à sortir son pistolet et à abattre son adversaire sans aucun contact. Vu les difficultés rencontrées à cet endroit, Spielberg décida alors d'écourter les prises de vue en ramenant le temps de tournage sur place de 6 semaines à 4,5. Pour le tournage des séquences prenant place dans le Well of Souls, ce dernier fut à multiples reprises reporté parce qu'il n'y avait soit pas assez de serpents pour la scène ou encore qu'il n'y avait pas assez d'antivenin sur le plateau de tournage si des membres de l'équipe de tournage étaient mordus par des reptiles dont certains étaient vénéneux. D'ailleurs, quelques membres de l'équipe de tournage furent effectivement mordus par des serpents, principalement des pitons, mais rien de bien grave, bien sûr. De plus, lorsque la fille du réalisateur de Stanley Kubrick, Vivian, visitera le plateau de tournage, cette dernière appela la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals pour se plaindre du mauvais traitement des reptiles sur la production, ce qui amènera à l'arrêt du tournage pendant plus d'une journée complète. Pour la séquence du sous-marin nazi, l'équipe empruntera un sous-marin à la production de la mini-série allemande Das Boot, qui était alors en tournage, à condition que ce dernier ne soit pas utilisé sous l'eau. La relation entre l'actrice Karen Allen et le réalisateur Steven Spielberg sera tendue durant la production, principalement parce que Allen devait continuellement se battre pour son personnage et cherchait continuellement à changer ses textes et ses actions pour améliorer la vision du personnage de Marion, alors que Spielberg, lui, désirait véritablement suivre le scénario à la lettre, sauf si cette dernière était capable de lui prouver que sa vision était meilleure que celle écrite par Kasdan. Dû à cela, plusieurs scènes seront improvisées, notamment la scène où Marion met sa robe et tente de s'échapper de la tente de Belloc, ainsi que la scène de combat autour de l'avion. Durant le tournage de cette scène, Ford se lésa un ligament de la jambe gauche à cause de la roue de l'avion qui lui passera sur le genou. Heureusement pour lui, l'os de sa jambe ne fut pas touché et l'acteur s'enveloppera le genou dans de la glace et poursuivit le tournage. En moins de 73 jours de tournage éprouvant, le film est dans la boîte, tout un exploit. La post-production dura plus de 2 mois et focusera principalement sur les effets spéciaux digitales. À l'origine, aucune séquence n'était tournée avec Marion pour la conclusion du film et, trouvant qu'il y avait un manque à cet effet, Spielberg décidera par la suite de filmer une ultime séquence avec Indy et Marion sur les marches de San Francisco City Hall. À sa sortie, le film fut coté « restricted », ce qui veut dire 18 ans aux États-Unis, principalement à cause de la scène finale où 2 des 3 vilains se décomposent devant l'écran alors que la tête de Belloc, elle, explose carrément. Pour remédier à cela, les responsables des effets spéciaux rajouteront une image de feu pour camoufler le graphisme de ces séquences, ce qui abaissera alors la cote à PG, mais qui lui vaudra quand même ici au Québec une cote de 14 ans. Durant l'été 1981, le domaine cinématographique était depuis plus d'un an en crise, principalement dû à la hausse des budgets de films, la baisse de l'achalandage en salle et surtout la montée des prix des billets dans les salles de cinéma. Malgré des films tels que Superman 2, History of the World Part 1, For Your Eyes Only et The Great Muppet Caper, l'industrie s'attendait alors à une perte de plus de 10 % des revenus de l'année précédente. En juin 1981, Raiders of the Lost Ark sort aux États-Unis et reçoit un accueil triomphal. Le public et la critique sont unanimes pour saluer ce vrai film d'aventure, drôle, pétillant, passionnant et au héros attachant qui redonnera alors un second souffle à l'industrie cinématographique. En 1982, aux Oscars, le film remportera 4 de ses 8 nominations, soit les prix du meilleur son, du meilleur montage, de la meilleure direction artistique et des meilleurs effets spéciaux. Le score du meilleur film, cependant, sera remporté par Chariots of Fire de Hugh Hudson. Raiders of the Lost Ark va également remporter les prix suivants. Au American Movie Awards de 1982, il ramassera le prix du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Au BAFTA Awards de 1982, il ramassera le prix pour la meilleure direction artistique. Le BSFC Awards en 82 donnera le prix à Steven Spielberg comme meilleur réalisateur. Eddie Award de la même année donnera le prix du meilleur montage au monteur Michael Caine pour Raiders of the Lost Ark. Le Grammy Awards pour le meilleur album pour la trame sonore du film sera remis à John Williams pour également Les Aventuriers de l'Arche perdue. Au niveau du prix Hugo, eh bien, ce sera le meilleur film que remportera, bien sûr, Raiders of the Lost Ark. On donnera au Kesey FCC Awards en 82 le prix du meilleur film. Au Kinema Jumbo Award, le prix du meilleur film étranger. Au Golden Reel Awards en 82, on donnera les prix pour le meilleur montage pour les dialogues ainsi que pour les meilleurs montages pour les effets spéciaux. Et au Saturn Award, eh bien, on ramassera les prix du meilleur film fantastique, du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur réalisateur, meilleur scénariste, meilleurs effets spéciaux et meilleure musique de film. Et bien sûr, pour terminer, eh bien, le prix sublime People's Choice Award en 82, Raiders of the Lost Ark ramassera le prix du film préféré des Américains pour l'année 1981. En 1999, le film est sélectionné par le National Film Presentation Board pour conservation au National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès en raison de son apport culturel, historique ou esthétique à la culture américaine. Et à partir de l'an 2000, le long-métrage sera alors exploité sous le nom de Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark. Au niveau des points forts, eh bien, une excellente distribution. On sent ici que tous les acteurs s'amusent dans leurs rôles respectifs, tout spécialement Harrison Ford, qui va donner une vie incroyable à ce personnage qui est devenu légendaire grâce à lui, et Karen Allen, qui nous présente ici un personnage féminin digne de tenir tête à Indiana Jones. Oui, l'intrigue est remplie d'invraisemblances manifestes, mais elle est menée avec une telle verve qu'on s'y laisse prendre avec plaisir. Le scénario de Kasdan est tout simplement parfait, prenant le temps de bien nous présenter les personnages et surtout l'histoire de fond. Les scènes d'action sont tournées d'une manière spectaculaire qui entraîne irrésistiblement le spectateur dans l'action. L'aventure est au rendez-vous et respecte admirablement les films d'aventure de cette époque lointaine du cinéma des années 30 et 40. L'humour va permettre au film de bien couler, même dans les moments dramatiques. Et c'est finalement, le film est un véritable James Bond, rempli d'action, mais avec des inspirations qui nous rappellent fortement ces merveilleux serials des années 30. Et toute cette action, eh bien, nous laisse plus de place pour reprendre notre souffle. Cependant, c'est également une des problématiques de Raiders of the Lost Ark, c'est-à-dire que la musique et l'action sont tellement omniprésents que ça ne laisse pas le temps à notre esprit de bien respirer. Quelque chose qu'on va changer à partir du troisième film. L'introduction est, tant qu'à moi, beaucoup trop théâtrale. On sent par moments que la réalisation est plutôt mécanique et que Spielberg suit vraiment un ordre du jour au lieu de se laisser aller. On dirait qu'il a peur d'y mettre du sien et qu'il manque un petit peu de confiance en lui. Mais on sent que malgré qu'on a un beau visuel, que celui-ci est quelque peu mécanique. C'est un problème qui va survenir à plusieurs moments dans le film où même les acteurs vont dicter leur texte et que ça semble quelque peu forcé et artificiel. Je pense que le gros problème principal de Raiders of the Lost Ark est son problème d'erreur de continuation. Il y en a énormément et je vous dirais même, on en voit souvent dans tous les films, mais dans ce film-là, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus évident que ce qu'on est habitué de voir habituellement dans un film de Spielberg. Ce qui nous démontre à quelle vitesse fut réalisé le long-métrage. Du côté de la musique du film, eh bien, c'est le compositeur John Williams, ce compositeur américain qui nous a donné la trame sonore de Star Wars, Jaws et Close Encounter of the Third Kind. C'est une trame sonore que l'on a pu avoir en CD et en vinyle en 1981 sous l'étiquette Polydor. On a également eu une Expanded Edition qui est sortie le 30 octobre 1995 en CD sous l'étiquette DCC. Puis Condor Records sortira une nouvelle Expanded Edition le 17 février 2009 en CD également, avant d'avoir tout récemment, soit le 2 juin 2017, un nouveau vinyle qui sortira également par Concord Records. Je vous présente ici un segment musical du film Raiders of the Lost Ark.
Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed. And all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
For the finest dairy produce of all kinds, farm fresh and full of fun to eat nourishment, you're sure to get the best for your family when you shop with us.
If there's a doubt, don't shoot it out. Call on the specialists. Get professional advice and the finest quality products from us.
It's ice cream time!
That's right. Can I sell you some Lion's Mane ice cream? Cups, chalk ices, lollies? I shouldn't be doing this job, really. I haven't got the shape for it. But at least I get a free one. Now, what do you fancy? Stay where you are. I'll send the tray to you. Come on, up, up. That'll be easier this way. Go on, off you go. Take care of everybody. That's it. Enjoy a bit of Lion's Mane magic now. Go on, spoil yourself.
And now, on with the show.
Si l'aventure a un nom, c'est celui d'Indiana Jones.
Le docteur Jones a trouvé Norachi pour moi. Et il est ici pour me le remettre tout de suite.
Qui c'est enfin ce Norachi?
Veux-tu ranger ce revolver, fiston?
Qu'est-ce que je m'amuse? Oh, extra!
Rien ne me choque, moi. Je suis un scientifique.
Quel genre de recherche feriez-vous sur moi?
Activité nocturne.
Ma position favorite pour dormir.
Fréquence des rapports.
Parce que vous faites autorité en la matière.
J'ai des années d'expérience pratique.
Oh, cesse de te plaindre. Écoute les yeux de la tête, ce parfum.
Jiva lui a parlé et lui a dit d'aller combattre le mal. Afin d'assurer sa victoire, il lui a fait don de 5 pierres sacrées douées de pouvoirs magiques.
Des pierres magiques. Fortune et gloire.
Il vaudrait mieux que vous dormiez près de moi. Oh, par sécurité, bien sûr.
Docteur Jones, un serpent me paraît moins dangereux que vous.
Alors, vous ne me croyez pas? Cela viendra, Docteur Jones. Vous serez bientôt un de nos plus ardents fidèles.
C'est dégoûtant!
Tâtez à l'intérieur! Willy! Bon Dieu, je vous dis que nous allons mourir!
On va s'écraser! On va s'écraser!
Quelle
lâchez-la!
Steven Spielberg et George Lucas vous présentent Indiana Jones et le Temple Maudit.
Indiana Jones and the Temple of Doom, ou Indiana Jones et le Temple Maudit, est un drame d'aventure qui a été distribué par les studios Paramount Pictures le 23 mai 1984. Ce film américain de 118 minutes a été réalisé avec un budget de 28 millions et ramassera plus de 333 millions de dollars au box-office mondial. Sur le siège du réalisateur, on y retrouve de nouveau Steven Spielberg, ce réalisateur américain qui nous avait donné AI, Saving Private Ryan et E.T. The Extraterrestrials. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur britannique Robert Watts, qui nous avait donné Alive et Who Framed Roger Rabbit. Et finalement, au poste de scénariste, William Uwick Jr., qui a travaillé sur Radioland Murders et Best Defense, et son épouse Gloria Katz, qui nous avait donné Howard the Duck et American Graffiti. Dans la distribution, bien sûr, on y retrouve de nouveau Harrison Ford dans le rôle-titre, Kate Capshaw, Emmerich Puri, Roseanne Sett, Philip Stone et Jonathan Ki Kwan. En 1935, un archéologue aventureux, pourchassé par des gangsters chinois, s'échappe de Shanghai avec une chanteuse et un jeune ami oriental à bord d'un avion qui s'écrase alors dans les montagnes se trouvant en Inde. Par la suite, les trois individus acceptent d'aller enquêter sur d'étranges agissements dans le palais du Maharaja qui aurait kidnappé les enfants et une roche au pouvoir magique d'un petit village. Lorsque George Lucas et Steven Spielberg décidèrent de se lancer dans l'aventure de Raiders of the Lost Ark, il fut toujours entendu que si le premier film fonctionnait en salle, que les deux hommes réaliseraient alors une trilogie sur le personnage d'Indiana Jones. Deux semaines après le succès du long-métrage original, les deux amis commencèrent à travailler sur une idée de suite. À l'époque de la réalisation de ce deuxième chapitre, les deux hommes traversaient alors une séparation avec leurs conjointes respectives, ce qui amènera une période sombre dans la vie de ces derniers et allait expliquer les raisons pour lesquelles Indiana Jones and the Temple of Doom ira dans une direction totalement différente de celle de Raiders of the Lost Ark, soit une ambiance beaucoup plus sombre et violente que le film original.
Lucas décida alors de placer l'histoire de cette nouvelle aventure un an avant celle du film précédent, lui permettant ainsi d'éviter de mettre les nazis comme vilains du film. Après avoir conçu plusieurs histoires différentes qui furent toutes abandonnées, Lucas créera alors une aventure qui impliquera un culte religieux qui s'adonne à la magie noire, aux rituels de sacrifice humain et surtout à l'esclavage d'enfants. Le scénariste Lawrence Kasdan fut de nouveau approché pour écrire le scénario, mais ce dernier refusa, trouvant le sujet tout à fait troublant, horrible et beaucoup trop sombre pour lui. C'est alors que Lucas embauchera le couple composé de William Uwick et Gloria Katz pour l'écriture. Ces derniers, ayant une bonne connaissance de la culture hindoue et avaient travaillé précédemment avec Lucas sur American Graffiti au début des années 70. Uwick et Katz passeront alors 14 jours au Skywalker Ranch afin de discuter de l'histoire de fond avec Lucas et Spielberg au début de l'année 1982. Durant leurs multiples conversations, Lucas exigera deux choses. Qu'Indiana Jones se devait de retrouver quelque chose d'important qui avait été dérobé à la population d'un village et que le film débuterait en Chine avant que l'histoire ne se transporte en Inde. Lucas, Uwick et Katz avaient développé le scénario du film Radiolands Murders depuis le début des années 70 et qui sortira finalement en salle en 1994. C'est durant cette période sur laquelle il travailla sur Radioland Murders que Lucas eut l'idée d'inclure un numéro musical au tout début du film et il savait pertinemment bien que Spielberg avait toujours rêvé de réaliser un drame musical. Après leur rencontre avec le couple de scénaristes, Lucas enverra à ces derniers un transcript de plus de 500 pages dans lequel se trouvait la grosse majorité de leurs idées conçues durant leurs 4 jours de brainstorming, incluant une scène d'action à Shanghai, l'évasion d'Indy à bord d'un avion et d'une poursuite à l'intérieur d'une mine, 3 idées qui provenaient directement du premier jet du scénario de Raiders of the Lost Ark. Une autre idée qui fut développée fut celle d'un repas impliquant au menu divers insectes. Lucas et Spielberg se comportaient alors comme de véritables enfants durant la création de cette scène, désirant rendre celle-ci la plus dégoûtante possible. Le scénario fut écrit en moins de 6 semaines, soit en août 1982, et le second jet sera alors réalisé en septembre de cette même année. Le film, qui était alors intitulé « The Temple of Death », sera changé durant la pré-production par Indiana Jones and the Temple of Doom. Tout comme le nom d'Indy provenait du chien de George Lucas, le personnage de Willy sera nommé à partir du nom du chien de Spielberg, tout comme le personnage de Short Round, qui était le nom du chien du couple Uwick et Katz. Le scénario, ayant déplu aux autorités indiennes et dû au fait que ces derniers réclamaient des changements au scénario, ils voulaient avoir le mot final sur le montage du film, eh bien, celles-ci refusèrent de donner une autorisation de tournage sur leur territoire, ce qui forcera alors Lucas et Spielberg à transporter la production à Kandy au Sri Lanka, à proximité d'un endroit où une société d'ingénierie britannique était en train de construire un barrage. Au niveau de la distribution, l'actrice Sharon Stone avait été pressentie pour le rôle de Willy, personnage qui sera finalement interprété par l'actrice Kate Capshaw. Ce film sera également l'occasion de retrouvailles entre 2 grands acteurs indiens, soit Roshan Seth et Amrish Puri, qui avaient tourné 2 ans plus tôt aux côtés de leur compatriote Ben Kingsley dans le film Gandhi de Richard Attenborough. L'acteur indien D.R. Nanayakara, ne parlant pas l'anglais, se contente de répéter les répliques que Spielberg lui souffle, ce détail étant marqué par le fait que le personnage effectue une pause entre chaque phrase. Pour le personnage de Short Round, l'acteur Jonathan Ki Kwan fut choisi après que ce dernier eut accompagné son frère aux auditions. Spielberg était amusé par ce dernier qui ne cessait de dire à son frère quoi faire et quoi ne pas faire durant son audition. C'est alors que Spielberg va lui demander d'improviser une scène avec Harrison Ford dans laquelle Short Round accuse Indy de tricher durant une partie de cartes. Kwan allait finalement remporter le rôle qui fut auditionné par plus de 6 000 jeunes. Ewick et Katz iront même jusqu'à prétendre que durant le tournage, que l'acteur Harrison Ford prendra plusieurs répliques qui devaient originellement être données au personnage de Short Round et les intégrera à travers les siennes. Parlant d'Harrison Ford, l'acteur va subir une hernie discale durant sa scène de combat corps à corps entre Indy et un thug dans sa chambre au palais. Ford sera alors rapatrié d'urgence aux États-Unis pour une hospitalisation de plus de 6 semaines. Le réalisateur Steven Spielberg continuera malgré tout le tournage avec le cascadeur Vic Armstrong, notamment cette scène de bagarre opposant Indy et ce thug colossal qui finit écrasé par le concasseur, le héros n'étant filmé que de dos et de loin. Lorsque Ford revient sur le plateau, Spielberg filme quelques gros plans de son visage pour rendre la scène plus crédible. C'est Danny Daniels qui fera la chorégraphie du numéro musical d'introduction intitulé « Anything Goes » qui sera présenté au club Obi-Wan, nom donné en hommage au personnage légendaire de la saga Star Wars. Kate Capshaw apprendra alors à chanter en mandarin et prendra des cours de danse à claquettes, mais cependant, la robe réalisée par l'artiste Barbara Matera était tellement serrée qu'il était impossible à Capshaw de danser avec celle-ci. Pour la séquence de la chambre des insectes, Capshaw dut prendre des tranquillisants pour réaliser la séquence dans laquelle elle était recouverte de plus de 2000 insectes. Malgré divers problèmes lors de la production de Temple of Doom, Spielberg fut capable de compléter le tournage du film dans les délais et dans son budget initial. Malgré cela, Spielberg ne sera pas vraiment content du résultat final, considérant même celui-ci beaucoup trop violent et beaucoup plus sombre, et ce sera vraiment pas son film favori, même je vous dirais, c'est probablement le film qu'il aime le moins dans les 3 premiers films de la franchise. Mais ce sera toujours le film dans lequel il fit la connaissance de Kate Capshaw, qu'il épousera 7 ans plus tard, suite à son divorce en 1989 avec l'actrice Amy Irving. Aux États-Unis, la sortie en salle de ce film forcera la création de la classification PG-13, ou déconseillée aux mineurs de moins de 13 ans, par la Motion Picture Association of America à cause de sa violence. On y voyait notamment un cœur palpitant, arraché d'une poitrine et le héros frappé un jeune garçon. Cette décision fut également renforcée par le film Gremlins que produisit durant cette même année Steven Spielberg. Indiana Jones and the Temple of Doom sera également le tout premier film à utiliser la technologie THX Theater Alignment Program qui forcera alors les salles de cinéma à diffuser le long métrage à l'intérieur d'un standard prédéfini par les maisons de production. Suite à son succès en salle, Indiana Jones and the Temple of Doom recevra en 1985 l'Oscar des meilleurs effets visuels ainsi que le BAFTA en 1985 également pour les meilleurs effets visuels. Finalement, le jeune acteur Jonathan Kikwan remportera le prix du meilleur second rôle masculin aux Young Artist Awards de 1985. Du côté des points forts, eh bien, écoutez, Spielberg s'amuse ici et n'a absolument rien perdu de son habileté de réalisateur, non plus de son invention narrative, même si le récit ici s'alourdit quelque peu vers le milieu de l'histoire. De plus, le metteur en scène a ce don de nous amuser en poussant le dégueu à l'extrême, soit avec la séquence des insectes et de Willy, et de ce fameux repas exotique dans le palais du Maharaja. La séquence d'introduction est tout simplement spectaculaire et est probablement la meilleure séquence du film. On assiste peut-être ici à l'une, sinon la meilleure séquence d'introduction de la quadrilogie. De plus, il est important de saluer le travail incroyable des cascadeurs tout au long de la production, ce film étant un véritable tapis roulant de scènes d'action qui se suivent sans nous permettre de reprendre notre souffle. Jonathan Kwee-Kwan est tout simplement extraordinaire ici dans le rôle de Short Round. Il interprète une merveilleuse version rajeunie de notre héros qui est Indiana Jones, alors qu'Harrison Ford semble encore continuer à s'amuser avec ce personnage malgré la lourdeur de l'histoire. Le ton humoristique constant se mêle à l'attention, ce qui nous permet d'accepter plus facilement l'extravagance de certains développements et également des scènes extrêmement violentes. Et la direction photo est tout simplement A1. Mais du côté des points faibles, eh bien, les effets spéciaux réalisés avec des maquettes et des poupées, ils ont vraiment mal vieilli avec le temps. Il est même surprenant de voir ce type d'image dans une production de Steven Spielberg qui habituellement soigne son visuel au point de ne pas utiliser des images où les effets spéciaux paraissent énormément. Je m'attends même à n'importe quel moment de revoir une nouvelle version de Indiana Jones et le Temple maudit où on va refaire ces images-là d'une façon numérique. Mais je pense que ça fait partie quand même du charme de Temple of Doom, même si ces effets spéciaux-là enlèvent un peu de crédibilité au film. Pour certains, l'aspect sombre et violent du film pourrait les distraire et faire en sorte de les déranger. On assiste à un film où l'esclavage des enfants et la violence envers ces derniers nous est présenté de façon crue. Même notre héros devient malgré lui un batteur d'enfants et on est même très loin de l'aspect aventurier rigolo du reste de la quadrilogie. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est ce qui fait le charme de cette production qui se distingue totalement des autres films de la franchise. Le personnage de Willy est extrêmement irritant, malgré qu'à certains moments, le personnage est amusant et que la chimie avec Indiana Jones se fait quand même bien. Cependant, comme dirait notre héros, le problème avec elle, c'est le bruit et Capshaw a tout simplement un cri qui est tout simplement fatigant à entendre. Tout comme dans le film précédent, la musique de John Williams est omniprésente et ne laisse pas assez de temps à notre esprit pour respirer, le tout rajouté par des scènes d'action et un branle-bas de combat continuel. Donc, on n'a pas vraiment le temps de reprendre notre souffle, mais que ça le tienne, Indiana Jones and the Temple of Doom est probablement un des meilleurs films de la saga au niveau aventure. Donc, la musique est encore une fois réalisée par John Williams, ce compositeur américain qui nous a donné The Towering Inferno, la trame sonore de Superman et également de Fury. C'est quelque chose qui est sorti en vinyle et en CD en 1984 sous l'étiquette Polydor. Et nous avons également eu une Expanded Edition qui a été distribuée le 17 février 2009 en CD par les étiquettes Concord Records. Je vous présente ici la chanson thème « Anything Goes ».
long what's a house of our sun within the bar. Anything goes.
Du côté des cotes artistiques, Mediafilm cote le film Raiders of the Lost Ark ou Les Aventuriers de l'Arche perdue 4. Moi, j'y vais avec un 3. Malgré ses défauts techniques, c'est un film qui se laisse regarder admirablement bien. Vous rentrez dans l'histoire et vous n'en sortez pas avant la fin. Donc, je pense que c'est un film qui bénéficie et qui mérite une meilleure cote que ce qu'il a reçu. Du côté de Indiana Jones and the Temple of Doom, même chose. Le film, à l'époque, était coté 3. Là, maintenant, Mediafilm le cote 4. Moi, je continue à le coter également 3. Film d'action, comme il s'en fait très rarement. Du côté de l'âge, eh bien, à l'époque, Raiders of the Lost Ark était coté 14 ans. Maintenant, il est coté général. Moi, je continue à garder une cote de 14 ans. Même chose pour Indiana Jones and the Temple of Doom. Le film qui était coté à l'époque 14 ans ou même 13 ans indicatif est rendu maintenant général. Moi, je continue à dire que c'est un film qui est 14 ans. Beaucoup de scènes de violence qui ne sont pas vraiment recommandées pour un jeune auditoire. Au niveau de la disponibilité en DVD et en Blu-ray, que ce soit pour Raiders of the Lost Ark ou Indiana Jones and the Temple of Doom, les films sont disponibles en DVD dans les deux langues. Même chose en Blu-ray disc. Et tout récemment, pour le 40e anniversaire, on a sorti l'édition 4K. Donc, ça vous permet d'avoir tous les films d'Indiana Jones dans le meilleur format possible. Je vous suggère du côté du DVD de cette fameuse, ce fameux coffret qui s'appelle The Adventures of Indiana Jones, qui inclut non seulement Raiders of the Lost Ark, Temple of Doom et The Last Crusade, mais qui inclut également un DVD bonus sur lequel vous avez différents making-of. Du côté de, du Blu-ray, bien, vous avez The Complete Adventures qui inclut les quatre films dans les deux langues, soit français et anglais. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, vous avez maintenant l'édition 4K qui vient de sortir, qui inclut également les quatre films de la série. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans lequel vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions. Une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.